de Maxime Gorki, Ma vie d'enfant. Chapitre 1. Près de la fenêtre, dans une petite pièce presque obscure, mon père, tout de blanc vêtu et extraordinairement long, est couché sur le sol. Les doigts de ses pieds nus, animés d'un mouvement bizarre, s'écartent l'un de l'autre spasmodiquement, tandis que les phalanges caressantes de ses mains, posées avec résignation sur sa poitrine, restent obstinément contractées. Le regard joyeux de ses yeux clairs s'est éteint. Le visage, si bon d'ordinaire, apparaît morne, et la saillie de ses dents entre les mâchoires distendues emplit mon cœur d'un vague effroi. En jupe rouge, à demi vêtue, ma mère s'est agenouillée près de lui. Et, au moyen d'un petit peigne noir, dont j'aime à me servir pour scier les écorces des pastèques, elle partage les longs et souples cheveux de mon père qui lui retombent obstinément sur le front. Sans arrêt, d'une voix pâteuse et rauque, elle parle. Et de ses yeux gris boursouflés de grosses larmes s'égouttent comme des glaçons qui fondraient. Grand-mère me tient par la main. C'est une femme au corps grassouillé, surmontée d'une grosse tête, aux yeux énormes, sous lesquels bourgeonne un nez comique et mou. Toute sa personne apparaît noire, flasque et étonnamment intéressante. Elle pleure aussi, accompagnant d'une harmonie particulière et vraiment agréable les sanglots de ma mère. Secouée de frissons, elle me tire et me pousse vers mon père, mais je résiste et me cache derrière elle, car je suis gênée et j'ai peur. Jamais jusqu'à ce jour je n'avais vu pleurer les grandes personnes, et je ne parvenais pas à comprendre les paroles que me répétait ma grand-mère. « Dis adieu à ton père, tu ne le reverras plus jamais, il est mort, le pauvre cher homme. Il est mort trop tôt, ce n'était pas son heure. » Je venais de quitter le lit où une grave maladie m'avait retenu. Je cherchais à fixer mes souvenirs. Oui, durant les jours passés dans ma chambre, mon père, je me le rappelais fort bien, m'avait tenu compagnie, me soignant et me distrayant. Et puis, tout à coup, il avait disparu, et la grand-mère, une personne étrangère, était venue le remplacer. « D'où sors-tu ? » lui demandai-je. Cette personne répondit. « D'en haut, de Nijni. Et puis, je ne suis pas sortie, je suis arrivée. On ne sort pas de l'eau, on va en bateau. » Ces propos me semblaient bizarres, peu clairs et invraisemblables. Au-dessus de nous vivaient des persans barbus au teint coloré, tandis que le sous-sol était occupé par un vieux kalmouk, tout jaune, qui vendait des peaux de mouton. Et l'eau, que venait-elle faire dans cette affaire? Cette femme embrouillait tout. Mais ce qu'elle disait était drôle. Elle parlait d'une voix douce, gaie et chantante. Dès le premier jour, nous fûmes amis. Et à ce moment-là, j'aurais voulu qu'elle quittât avec moi, et au plus vite, cette chambre lugubre. C'est que ma mère m'impressionne. Ses larmes et ses gémissements ont éveillé en moi un sentiment inconnu jusqu'alors, l'inquiétude. C'est la première fois que je la vois ainsi. En temps ordinaire, elle gardait une attitude sévère et parlait peu. Très grande, toujours propre et bien arrangée, elle montrait un corps aux lignes nettes et des bras vigoureux. Aujourd'hui, elle m'apparaît comme boursouflée, les traits ravagés, les vêtements en désordre. Ses cheveux, disposés sur sa tête en un casque volumineux et blond, retombent en mèches sur le visage et sur l'épaule. Une des nattes descend même effleurer la figure du père endormi. Je suis dans la chambre depuis longtemps déjà, et pourtant ma mère ne m'a pas regardée une seule fois. Elle continue, en geignant, à lisser la chevelure de son époux, et les larmes l'étouffent par moments. Soudain, la porte s'ouvre. Des paysans sont là, accompagnés d'un sergent de ville qui crie, sur un ton irrité, « Arrangez-le et dépêchez-vous !» Sous l'effet du courant d'air qui s'était établi, un châle noir, pendu devant la fenêtre, se gonflait comme une voile. Je me souviens alors, je ne sais pourquoi, qu'un jour, mon père m'avait fait monter dans un bateau à voile. Soudain, un coup de tonnerre avait retenti. Le père s'était mis à rire. Puis, me serrant avec force entre ses genoux, il s'était écrié « Ce n'est rien, Alexis, n'aie pas peur !» Tout à coup, ma mère se leva lourdement, mais aussitôt elle se rassit, puis s'allongea sur le dos et ses cheveux balayèrent le sol. Son visage blanc et aveuglé par les larmes devint bleu. Les dents découvertes comme celles de mon père, elle proféra d'une voix tremblante ces quelques mots. « Fermez la porte ! Faites sortir Alexis !» Ma grand-mère me repoussa, se précipita vers l'ouverture et s'exclama. « N'ayez pas peur, bonnes gens, laissez-nous. Allez-vous-en, au nom du Christ. Ce n'est pas le choléra. Elle va accoucher. De grâce, bonnes gens !» Cachée derrière une malle, dans un recoin obscur, je regardais ma mère se tordre sur le sol, gémissante et grinçant des dents. Cependant que grand-mère, agenouillée près d'elle, psalmodiait d'une voix caressante et joyeuse « Au nom du Père et du Fils, prends courage, Varioucha, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous !» J'avais peur. Les deux femmes se traînaient sur le plancher avec des plaintes et des soupirs. Parfois, elles effleuraient le corps immobile et glacé de mon père, dont la bouche entr'ouverte avait l'air de ricaner. Longtemps, elles restèrent ainsi. À plusieurs reprises, ma mère essaya bien de se lever, mais elle retombait bientôt. Grand-mère, sans que je susse pourquoi, s'échappa de la pièce, roulant à la façon d'une grosse boule noire et molle. Puis, dans l'obscurité, un cri d'enfant retentit. « Je te rends grâce, Seigneur, c'est un garçon !» s'exclama l'aïeul qui rentrait. Et elle alluma une chandelle. Je m'endormis sans doute dans mon coin, car rien de plus n'est resté dans ma mémoire. Le second souvenir de ma vie date d'une journée pluvieuse. Je revois un coin désert du cimetière. Je suis debout sur un tas de terre visqueuse et glissante, et je regarde un trou dans lequel on vient de descendre le cercueil de mon père. L'eau a envahi le fond et des grenouilles y barbotent. Deux d'entre elles ont déjà sauté sur le couvercle jaune du cercueil. Je suis là, avec grand-mère, le sergent de ville, tout mouillé, et deux hommes aux faces renfrognées, munis de pelles. Une pluie tiède et fine comme des perles nous asperge sans relâche. « Comblez la fosse !» ordonne le représentant de l'autorité, et il s'en va. Grand-mère se met à pleurer, le visage enfoui sous un pan de son fichu. Les hommes se penchent et, à la hâte, jettent sur la boîte funèbre les mottes grasses qui tombent en faisant clapoter l'eau boueuse. Les grenouilles, apeurées, abandonnent alors le couvercle du cercueil et sautent pour s'enfuir entre les parois de la fosse. Mais les mottes de terre les font retomber. « Va-t'en d'ici, Alexis !» m'ordonna grand-mère en me touchant l'épaule. Mais je résistais à son injonction, car je ne voulais pas m'en aller. « Ah, mon Dieu !» soupira-t-elle alors, se plaignant du ciel autant que de moi. Longtemps, elle resta là, immobile et silencieuse, la tête basse. La fosse était comblée, et elle ne songeait toujours point à partir. On entendait sur le sol le bruit métallique des pelles. Le vent se leva, chassant les nuages, emmenant la pluie. Grand-mère alors sembla se réveiller. Elle me prit par la main et me conduisit vers une église lointaine, dont le clocher dressait sa flèche au milieu d'une multitude de croix noires. « Pourquoi ne pleures-tu pas ? » interrogea-t-elle quand nous fûmes tous deux hors de l'enceinte. « Tu devrais bien pleurer un peu. »
« Je n'en ai pas envie, » répondis-je.
« Eh bien, si tu n'en as pas envie, ne pleure pas, » conclut-elle à mi-voix. Ces réflexions me semblaient bien étonnantes. Je pleurais rarement, et seulement quand on m'humiliait. Jamais la souffrance ne m'avait arraché de sanglots. Mon père se moquait de mes larmes, et ma mère, quand il m'arrivait d'en verser, me criait régulièrement « Je te défends de pleurer !» Nous suivîmes en fiacre une rue large et très sale, bordée de maisons rouges, et je demandai à ma compagne.
« Les grenouilles, pourront-elles sortir ?»«
Non, elles ne pourront s'échapper maintenant. Que Dieu soit avec elles !» Ni mon père ni ma mère ne prononçaient si souvent et avec une telle confiance familière le nom de Dieu. Peu de jours après ces événements, je me trouve en bateau, dans une petite cabine, avec ma mère et grand-maman. Mon frère nouveau-né, Maxime, était mort, et on venait de le coucher sur une table dans un coin, enveloppé d'un linge blanc bordé de rouge. Juché sur des malles et des paquets, par une sorte de fenêtre ronde et bombée comme l'œil d'une jument, je regarde le paysage. Une eau, trouble et écumeuse, court sans cesse derrière la vitre mouillée. Parfois, une vague se redresse qui vient lécher le hublot, et instinctivement, je saute à terre.
« N'aie pas peur, » rassure grand-mère.
Et ses bras tendus me soulèvent sans effort et m'installent de nouveau sur les ballots. Une brume grise plane au-dessus de la rivière, tandis qu'au loin, une bande de terre verte, alternativement, se montre et disparaît dans l'atmosphère brouillée. Tout tremble. Seule ma mère, debout, appuyée à la cloison et les mains croisées derrière la tête, garde une immobilité rigide. Son visage est sombre et impassible, comme un masque d'airain. Ses paupières sont closes, elle ne parle pas. Elle m'apparaît toute changée, toute différente, et la robe même qu'elle porte est nouvelle pour moi. Souvent, à mi-voix, grand-mère lui propose « Varioucha, si tu mangeais un peu, rien qu'un petit morceau, veux-tu ?» Elle ne répond ni ne bouge. En général, grand-mère parle en chuchotant. Mais quand elle s'adresse à ma mère, elle élève un peu la voix. Cependant, il y a dans ses inflexions quelque chose de timide et de prudent. Il me semble qu'elle a peur de ma mère, et ce sentiment, que je comprends fort bien, nous rapproche et nous unit. « Voilà Saratov !» s'écrie tout à coup maman sur un ton dur et irrité. « Où est le matelot ?» Quelques paroles bizarres et nouvelles, elle emploie maintenant. « Saratov, matelot !» Un gros homme à cheveux gris et vêtu de bleu entra dans la cabine. Il apportait une petite caisse, dont grand-mère le débarrassa et où elle étendit le corps de mon frère. Puis elle se dirigea vers la porte, les bras tendus. Mais elle était trop grosse pour passer par l'étroite issue autrement qu'en travers, et elle s'arrêta sur le seuil, embarrassée. « Ah, maman !» s'écria ma mère en lui enlevant le cercueil. Là-dessus, toutes deux disparurent, et je restai dans la cabine à examiner l'homme en bleu. « Alors, il est parti, ton petit frère ? » s'exclama-t-il en se penchant sur moi.
« Qui es-tu ? » répliquai-je.
« Un matelot. »
« Et Saratov, qui est-ce ? »
« Une ville. Regarde par la fenêtre, tu la verras. » Derrière la vitre, la terre semblait courir, noire et déchiquetée. De la fumée, du brouillard s'en exhalait, et cela faisait songer à un gros morceau de pain fraîchement coupé de la miche.
« Où est-elle allée, grand-mère ?»«
Enterrer son petit-fils. »
« On l'enterrera dans la terre ?»«
Ben oui, bien sûr. »
Je racontais aux matelots comment on avait enterré, vivante, des grenouilles lors des funérailles de mon père. Il me souleva dans ses bras, me serra contre sa poitrine et m'embrassa.
« Ah, mon petit, tu ne comprends pas encore. Ce n'est pas des grenouilles qu'il faut avoir pitié. Tant pis pour elles. C'est ta mère qu'il faut plaindre. La pauvre femme est-elle assez malheureuse ?»
Au-dessus de nous, il y eut des grincements et des gémissements. Mais je savais déjà que c'était la manœuvre du bateau qui provoquait ces bruits, et je n'eus pas peur. Cependant, le matelot me posa vivement sur le sol et sortit en disant « Il faut que je me sauve !»
Moi aussi, j'avais bien envie de m'en aller.
Je franchis le seuil. Le couloir étroit et obscur était désert. Non loin de la porte, sur les marches de l'escalier, des barres de cuivre étincelaient. Levant les yeux, je vis des gens qui tenaient des besaces et des paquets. Tout le monde quittait le bateau, c'était évident. Je devais donc débarquer, moi aussi. Mais lorsque j'arrivai à la passerelle avec la foule des voyageurs, tous se mirent à crier « Qui es-tu ? D'où sors-tu ? »
« Je ne sais pas. » On me poussa, on me secoua, on me fouilla.
Enfin, le matelot aux cheveux gris arriva, s'empara de moi et expliqua.
« C'est un gamin d'Astrakhan, un passager des cabines. »
Il me ramena en courant dans la pièce que je venais de quitter, me posa sur nos colis et s'en alla, non sans m'avoir menacé du doigt.
« Ne bouge pas, sinon... »
Au-dessus de ma tête, le bruit peu à peu diminuait. Le bateau ne vacillait plus, l'eau redevenait calme. La fenêtre me semblait obstruée par une sorte de muraille humide. Il faisait sombre, l'air était étouffant. Les bagages qui encombraient la pièce me gênaient. Tout allait de travers. Une grande angoisse me saisit. Peut-être allait-on me laisser seul à jamais sur un bateau vide ? Je m'approchai de la porte. Mais j'ignorais l'art de l'ouvrir, et il m'était impossible de forcer la serrure. Prenant une bouteille pleine de lait, je frappai la poignée de toutes mes forces. Le flacon se brisa, et le lait, coulant dans mes souliers, m'inonda les pieds. Chagriné par cet échec, je me couchai sur nos paquets, pleurant silencieusement, et je m'endormis dans les larmes. Lorsque je me réveillais, le bateau ronflait et tremblait de nouveau. La fenêtre de la cabine flambait comme le soleil. Assise près de moi, grand-mère se coiffait, fronçant le sourcil, chuchotant je ne sais quoi. Elle avait une masse de cheveux d'un noir bleuâtre qui couvrait d'une toison épaisse ses épaules, sa poitrine, ses genoux, et venait tomber jusqu'à terre. Une de ses mains les soulevait et les étendait, tandis que l'autre, armé d'un peigne de bois aux dents rares, mettait à grand-peine de l'ordre dans les grosses mèches indisciplinées. Ses lèvres grimaçaient, ses yeux noirs irrités étincelaient, et son visage tout entier, sous cette masse de cheveux, présentait un aspect minuscule et risible. Elle avait un air méchant que je ne lui connaissais pas encore. Mais quand je lui eus demandé pourquoi elle avait de si longs cheveux, elle me répondit de sa voix tendre et douce de tous les jours. « C'est pour me punir, sans doute, que Dieu me les a donnés. Comment se coiffer avec une telle crinière ? Quand j'étais jeune, j'en étais fière. Dans ma vieillesse, je la maudis. Et toi, mon petit, tu ferais mieux de dormir. Le soleil vient à peine de se montrer, et tu as besoin de repos. » « Je n'ai plus sommeil. »«
Eh bien, soit, ne dors plus. »
acquiesça-t-elle sans discuter davantage, et tout en continuant à natter ses cheveux, elle jeta un coup d'œil sur la couchette où ma mère était allongée, raide comme une corde tendue.
« Comment as-tu donc fait hier pour casser la bouteille ? Raconte-moi cela tout bas. » Elle parlait en chantonnant d'une façon particulière, et les mots qu'elle prononçait se gravaient facilement dans ma mémoire. Ils étaient pareils à des fleurs, brillantes, amicales et riches de sève généreuse. Quand grand-mère souriait, ses prunelles, larges comme des cerises, se dilataient, s'enflammaient. Une lueur indiciblement agréable émanait de son regard. Son sourire découvrait des dents blanches et solides. Et quoique la peau noirâtre des joues fût plissée en une multitude de rides, le visage semblait quand même jeune et rayonnant. Il était pourtant gâté par ce nez bourgeonnant aux narines gonflées et à l'extrémité écarlate. Grand-mère aimait un peu trop la boisson et plongeait souvent ses doigts dans une tabatière noire incrustée d'argent. Sa personne tout entière était sombre, mais comme éclairée du dedans. Et à travers ses yeux, son être intérieur brillait d'une lumière chaude, joyeuse et jamais éteinte. Elle était voûtée, presque bossue, très corpulente, et cependant se mouvait avec aisance et légèreté, comme une grosse chatte dont elle avait la souplesse caressante et féline. Avant sa venue, j'avais, pour ainsi dire, sommeillé, noyé dans je ne sais quelle pénombre. Mais elle avait paru, m'avait réveillé et conduit à la lumière. Sa présence avait lié tout ce qui m'entourait d'un fil continu. Elle avait tendu entre l'ambiance et mon âme une passerelle de lumière, et du coup, elle était devenue à jamais l'amie la plus proche de mon cœur, l'être le plus compréhensible et le plus cher. Ce fut son amour désintéressé de l'univers qui m'enrichit et m'imprégna de cette force invincible dont j'eus tant besoin pour passer les heures difficiles. Il y a 40 ans, les bateaux n'allaient pas vite, et il nous fallut beaucoup de temps pour arriver à Nijni Novgorod. J'ai gardé une impression fort nette de ce premier jour où je me saturais, si je puis dire, de beauté. Le temps restait pur, et du matin au soir, nous demeurions, grand-mère et moi, sur le pont, à regarder, sous le ciel serein, les rives du Volga s'enfuir, dorées par l'automne et brodées de soie. Sans hâte, le bateau roux clair, remorquant une barque au bout d'un long câble, bat l'eau grise et bleue. Bruyant et paresseux, il remonte lentement le courant. La barque, elle, est grise aussi et ressemble vaguement à un cloporte. Le soleil, sans qu'on se rende compte de sa marche, vogue au-dessus du fleuve. Chaque heure voit le décor se transformer, ainsi que dans les contes de fées. Les vertes montagnes sont pareilles à des plis somptueux ornant le riche vêtement de la terre. Sur les rivages, des villes et des villages apparaissent, prestigieux. Une feuille d'automne dorée nage sur les eaux. « Regarde comme tout cela est beau !» s'écrie à chaque instant grand-mère en m'entraînant d'un bord du bateau à l'autre. Et ce disant, ses yeux dilatés rayonnent de bonheur. Souvent, quand elle contemple ainsi le paysage, il lui arrive de m'oublier totalement. Debout, les mains jointes sur la poitrine, elle sourit, silencieuse et les larmes aux yeux, jusqu'à l'instant où je la tire par sa jupe noire garnie de percale à fleurs. « Hein ? » s'exclame-t-elle surprise. « Il me semble que je me suis endormie et que j'ai rêvé. « Pourquoi pleures-tu ? C'est de joie, mon petit, et aussi de vieillesse, » explique-t-elle en souriant. « Je suis déjà une vieille. Mes années, mes printemps ont dépassé la 6e dizaine. » Et, humant une prise, elle se met à me narrer des histoires fantastiques de bons brigands, de saints, d'animaux et de forces mauvaises. Quand elle raconte, elle se penche vers moi d'un air mystérieux. Ses pupilles dilatées se fixent sur mes yeux comme pour verser dans mon cœur une force qui doit me soulever. Elle parle à mi-voix comme si elle chantait, et ses phrases, au fur et à mesure que s'allonge le récit, prennent une allure de plus en plus cadencée. C'est exquis de l'écouter, et je réclame « Encore, grand-mère, encore !» Il était aussi une fois un vieux petit lutin assis près du poêle. Comme il s'était fait mal à la patte avec du vermicelle, il se dandinait en gémissant « Oh, que j'ai mal, petite souris! Oh, je ne puis supporter cette douleur, petit rat !» Et, prenant sa jambe dans ses mains, elle la soulevait et la berçait, accompagnant ce geste d'une grimace divertissante, mimant son récit comme si elle eût souffert elle-même réellement. Des matelots barbus, de braves gens, nous entourent, écoutent, rient, font des compliments à la narratrice, et eux aussi demandent « Voyons, grand-mère, raconte-nous encore quelque chose !» Ensuite, ils proposent « Viens donc souper avec nous !» Au cours du repas, ils lui offrent de l'eau de vie, et à moi, des melons et des pastèques. Mais tout cela se fait en cachette, car il y a sur le bateau un homme qui défend de manger des fruits à cause des épidémies et qui, dès qu'il en aperçoit, vous les enlève pour les jeter à l'eau. Il est habillé à peu près comme un soldat de police, il est toujours ivre et les gens se cachent dès qu'ils le voient approcher. Ma mère ne monte que rarement sur le pont. Elle ne vient pas vers nous et garde toujours le même silence obstiné. Son grand corps, bien proportionné, son visage d'airain, la lourde couronne de ses cheveux blonds nattés, sa silhouette vigoureuse et ferme, je crois voir encore tout cela derrière un brouillard ou un nuage transparent qui rend lointain et froid les yeux gris au regard droit, aussi grands que ceux de mon aïeul. Une fois, elle fit remarquer d'un ton sévère « Les gens se moquent de vous, maman. »« Que Dieu soit avec eux !» répliqua grand-mère avec insouciance. « Et grand bien leur fasse. Qu'ils rient si cela leur fait plaisir. » Je me rappelle la joie enfantine de la chère aïeule en revoyant Nijni Novgorod. Me tirant par la main, elle me poussa vers le bord et s'exclama « Regarde, comme c'est beau, regarde !» La voilà notre belle ville, la voilà la ville de Dieu. Regarde, que d'églises, on dirait qu'elles volent vers le ciel. Elle pleurait presque en disant à ma mère, « Regarde, Varioucha, n'est-ce pas que c'est beau? Tu l'avais oublié sans doute, ta ville. Admire et réjouis-toi. » Ma mère eut un petit sourire sombre. Lorsque le bateau s'arrêta en face de la belle cité, au milieu du fleuve tout encombré d'embarcations, hérissées de mâts pointus, une grande barque pleine de gens nous accosta. On leur tendit une échelle, et l'un après l'autre, les occupants du canot grimpèrent sur le pont. Le premier que j'aperçus fut un petit vieillard, sec et vif, qui se distinguait par son long vêtement noir, sa barbiche roussâtre et comme dorée, dominée par un nez aquilin au-dessus duquel luisaient deux petits yeux verts. « Papa !» s'exclama ma mère d'une voix à la fois sourde et forte, et elle se précipita vers lui. Il lui prit la tête et lui caressa les joues de ses petites mains rouges, puis se mit à crier et à glapir. « Eh bien, ah ah, nous voilà !» Grand-mère embrassait et étreignait tout le monde à la fois, semblait-il. Elle tournait comme une toupie. Elle me poussa vers des gens inconnus en m'expliquant très vite « Allons, dépêche-toi, voilà l'oncle Michael, c'est Jacob, la tante Natalia. Tes cousins, ils s'appellent Saka et Sacha, leur sœur Catherine. Tout cela, c'est notre famille, nous sommes nombreux, n'est-ce pas ?» Le grand-père lui demanda « Et tu es en bonne santé, mère ?» Ils s'embrassèrent à trois reprises. Puis le grand-père, me tirant d'un groupe compact, me demanda, la main posée sur la tête « Qui es-tu ? » « Un petit d'Astrakhan, un passager des cabines. » « Que raconte-t-il » s'étonna l'aïeul en s'adressant à ma mère, et sans attendre la réponse, il s'écarta de moi en remarquant. « Il a les pommettes de son père. Descendons dans le canot. » Nous débarquâmes, et en groupe, par une route pavée de gros cailloux, entre deux talus recouverts d'une herbe flétrie et piétinée, nous nous dirigeâmes vers la montagne. Grand-père et maman nous devançaient tous. De taille beaucoup plus petite que la sienne, il allait à petits pas rapides. Ma mère, elle, le regardait de haut en bas et semblait flotter en l'air. Venaient ensuite les deux oncles, Michael, sec comme son père, les cheveux lisses et noirs, et Jacob, blond et rayonnant. De grosses femmes en robe de couleur criarde et 5 ou 6 enfants, tous plus âgés que moi et tous tranquilles, les suivaient. Je fermai la marche entre grand-mère et la petite tante Nathalie. Celle-ci, qui était pâle et avait des yeux bleus et un ventre énorme, s'arrêtait à chaque instant. Haletante, elle murmurait « Je n'en puis plus !»« Pourquoi t'ont-ils dérangé ?» grommelait grand-mère avec irritation. « Quelle race de nigauds !» Les grandes personnes, ni les enfants, ne me plaisaient. Je me sentais un étranger parmi eux. Et dans ce nouveau milieu, grand-mère elle-même s'était comme effacée et éloignée de moi. Mon aïeul surtout me déplaisait. Du premier coup, je sentis en lui un ennemi, et une curiosité inquiète à son égard naquit en moi de cette réception. Nous arrivâmes en haut de la montée. À l'entrée de la grand-rue, et appuyée au talus de droite, se trouvait une maison à un étage, trapue et peinte en rose sale, dont les fenêtres bombées s'ouvraient sous un toit surbaissé. De la rue, elle me parut grande, et pourtant, à l'intérieur, dans les petites chambres presque obscures, on était à l'étroit. De même que sur le bateau, c'était plein de gens irrités qui s'agitaient. Des petits enfants s'ébattaient comme une bande de moineaux pillards, et il stagnait partout une odeur inconnue qui vous saisissait à la gorge. Nous pénétrâmes dans une cour déplaisante, elle aussi, entièrement encombrée de grands morceaux d'étoffe mouillée et de cuves pleines d'une eau colorée et épaisse où trempaient des chiffons. Dans un coin, sous un petit appentis délabré, des bûches flambaient dans un fourneau sur lequel des choses mystérieuses cuisaient et bouillonnaient, tandis qu'un homme invisible prononçait à haute voix des paroles étranges. Du santal, de la fuchine, du vitriol. Chapitre 2. Une vie complexe, indiciblement bizarre, commença, et les jours s'écoulèrent avec une rapidité terrible. Je me la remémore aujourd'hui comme une légende cruelle, habilement racontée par un génie bon, mais trop véridique. Maintenant encore, quand j'évoque le passé, j'ai peine à croire parfois que tout a vraiment été tel que ce fut. Il y a tant de choses que je voudrais discuter et nier, car la vie obscure d'une race stupide est par trop fertile en cruauté. Mais la vérité est supérieure à la pitié, et ce n'est pas seulement mon enfance et ses impressions angoissantes que je raconte. Je veux faire connaître le cercle étroit et étouffant au milieu duquel j'ai vécu, et dans lequel se meurt encore aujourd'hui le simple habitant de la Russie. La maison de mon grand-père était remplie comme d'un brouillard suffocant par la haine que chacun portait à autrui. Cette haine empoisonnait les adultes, et les enfants eux-mêmes la partageaient.
Par la suite, j'appris, grâce à ma grand-mère, que nous étions revenus juste à l'époque où mes oncles insistaient avec le plus de force auprès de leur père pour qu'il leur partageât ses biens. Le retour inattendu de ma mère avait encore accru et aiguisé leur convoitise. Ils craignaient en effet que ma mère n'exigeât le paiement de sa dot, dont le montant avait été fixé jadis, mais que le grand-père avait retenu parce que sa fille s'était mariée de son propre chef, sans l'assentiment paternel. Les oncles estimaient que cette dot devait être répartie entre eux. Depuis longtemps aussi, ils discutaient âprement pour décider lequel des deux ouvrirait en ville un atelier de teinturerie, comme celui du père, et irait se fixer sur l'autre rive de l'Oka, au faubourg Kounavine. Peu de temps après notre arrivée, à la cuisine, au moment du dîner, une querelle éclata. Les oncles brusquement bondirent sur leurs pieds et, le corps penché au-dessus de la table, ils se mirent à discuter en se tournant vers grand-père. Ils se secouaient comme des chiens qui montrent les dents. Mais l'aïeul, à son tour, devenu pourpre de colère et frappant la table avec sa cuillère, s'écria d'une voix éclatante, pareille au clairon d'un coq, « Je vous mettrai à la porte !» La grand-mère intervint avec une grimace douloureuse. « Donne-leur tout, père, donne-leur tout, tu seras plus tranquille !»«
Silence, gâteuse »
tonna-t-il. Il roulait des yeux terribles, et il me sembla étrange qu'un si petit homme pût vociférer d'une manière aussi assourdissante. Sans se hâter, ma mère se leva de table, et, tournant le dos à tout le monde, s'en alla vers la fenêtre. Tout à coup, du revers de sa main, l'oncle Michael gifla son frère. Celui-ci poussa un hurlement, s'accrocha à lui, et tous deux roulèrent sur le sol, avec des exclamations, des rugissements et des râles. Les enfants, à leur tour, se mirent à pleurer. La tante Nathalie, qui était enceinte, piaillait désespérément. Ma mère la prit à bras le corps et l'entraîna je ne sais où. Evgenia, la joyeuse nourrice au visage grêlé, chassa les bambins de la cuisine. Et, tandis que le premier ouvrier, Ivan, surnommé Tziganok, jeune gaillard aux larges épaules, s'asseyait à califourchon sur le dos de Michael, Grigori Ivanovitch, le contremaître, chauve et barbu, aux lunettes noires, liait tranquillement les mains de l'oncle au moyen d'une serviette. Le cou tendu, l'oncle frottait sur le sol sa maigre barbiche noire, exhalant des râles terrifiants, tandis que grand-père, affolé, courait tout autour de la table en geignant d'un ton désolé. « Des frères, vous êtes du même sang et vous vous battez. Misère !» Dès le début de la querelle, je m'étais enfui, plein d'effroi, sur le poêle. De là, je vis avec un étonnement anxieux grand-mère prendre de l'eau au lavabo de cuivre et laver le visage ruisselant de sang de l'oncle Jacob. Ce dernier pleurait, tapant du pied, et elle lui disait d'un ton accablé « Maudit, race sauvage, reviendrez-vous à la raison ?» Ramenant sur l'épaule sa blouse déchirée, grand-père lui cria « Hé, quoi, sorcière, aurais-tu enfanté des démons ?» Lorsque l'oncle Joseph fut sorti de la pièce, grand-mère se jeta vers le coin où les images saintes étaient suspendues, et à genoux, d'une voix qui me bouleversa, elle supplia. « Sainte Mère de Dieu, rends la raison à mes enfants !» Grand-père vint prendre place à ses côtés, et, regardant la table où tout était renversé, sans dessus-dessous, il la prévint à mi-voix. « Surveille-les, mère, sinon ils tortureront Varyusha et la feront périr. Ils en sont capables. Tais-toi, tais-toi, ne pense pas des choses pareilles. « Enlève ta blouse, je vais te la recoudre. » Serrant la tête du vieillard entre ses deux mains, elle le baisa au front. Et lui, qui, comparé à elle, était tout petit, posa la tête contre la poitrine de sa femme en disant « Il faut se résoudre à partager, je crois. Oui, père, oui. »
Ils conversèrent ainsi longtemps, d'abord amicalement. Puis grand-père se mit à gratter du pied le plancher, comme les coqs avant la bataille.
« Je sais bien que tu les aimes plus que moi, » murmura-t-il en la menaçant du doigt.
« Ton Michael, pourtant, n'est qu'un jésuite, et ton Jacob un franc-maçon. Ils vont tout boire, ils vont gaspiller tout mon bien. »
M'étant maladroitement retourné, je fis dégringoler un fer à repasser qui rebondit avec fracas sur les degrés du poêle et finit par tomber dans un seau. Surpris par ce tapage, le grand-père sauta sur une marche, me tira à bas de ma cachette et, me dévisageant comme s'il me voyait pour la première fois,
« Qui est-ce qui t'a fourré là-haut? Ta mère ?»«
Non, c'est moi qui ai grimpé tout seul. »«
Tu mens !»
« Non, ce que je dis est la vérité. J'ai peur. »
Il me repoussa, et sa paume vint me frapper légèrement le front.
« Tout le portrait de ton père. Va-t'en !»
Je fus content de pouvoir m'échapper de la cuisine. Je sentais bien que les yeux verts, perspicaces et intelligents de grand-père me poursuivaient sans cesse, et j'avais peur de mon aïeul. Je me rappelle l'instinctive frayeur qui me portait à fuir ses regards brûlants. Il me semblait que grand-père était méchant, qu'il témoignait à tout le monde une ironie outrageante, essayant de mettre les gens en colère et se méfiant de chacun.
« Hé, vous autres !» s'exclamait-il souvent,
et ces mots qu'il proférait en traînant sur les syllabes me produisaient chaque fois la même et pénible impression d'ennui et de froid. À l'heure du repos, au thé du soir, lorsque les oncles, les ouvriers et lui-même quittaient l'atelier et venaient à la cuisine, fatigués, les mains colorées par le santal, brûlées par les acides, les cheveux noués d'un bout de lacet, en tout semblable aux noires icônes de la famille, à cette heure paisible, grand-père s'asseyait, me plantant devant lui, et il causait avec moi plus souvent qu'avec les autres, à la grande jalousie de mes cousins. Toute sa personne était comme lissée, polie, aiguisée. Son gilet montant, en satin brodé, était vieux et déteint, sa blouse de cotonnade fripée. De grandes pièces se voyaient aux genoux de ses pantalons, et pourtant il semblait toujours plus élégant, plus propre et plus beau que ses fils, qui, eux, portaient faux col, manchettes et foulard de soie. Quelques jours après mon arrivée, il m'obligea à apprendre des prières. Les autres enfants, étant tous plus âgés que moi, prenaient des leçons chez le diacre de l'église de l'Assomption, dont on apercevait par la fenêtre les coupoles dorées. La tante Nathalie fut chargée de m'instruire. C'était une femme craintive et paisible, au visage enfantin et aux yeux si transparents qu'à mon idée, on pouvait voir tout ce qui se passait derrière sa tête. J'aimais les regarder longuement. Je les fixais sans battre des paupières. Alors elle baissait les cils, gênée, tournait la tête et, tout bas, presque chuchotante, demandait « Je t'en prie, dis avec moi « Notre Père qui... » Et si je l'interrogeais sur le sens de tel ou tel mot de l'oraison composé en ancienne langue slave, elle jetait un coup d'œil peureux autour de nous et conseillait « Ne demande rien, cela vaut mieux, répète tout simplement ce que je dis. Allons. Notre Père qui... » J'étais troublée. Pourquoi serait-ce pis si je questionnais? Les mots qu'on m'obligeait à dire prenaient de la sorte une signification cachée, et, à dessein, je les défigurais encore. Mais ma tante, pâlissant davantage, reprenait avec patience d'une voix entrecoupée. « Non, répète tout simplement. « Qui es aux cieux ?» Pas plus que ces propos, l'attitude de Nathalie n'était simple. Ses façons d'agir me surexcitaient, et les préoccupations qu'elle faisait naître m'empêchait d'apprendre par cœur et rapidement la prière. Un jour, grand-père s'informa. « Eh bien, Alexis, qu'as-tu fait aujourd'hui ? Tu as joué. Je le vois à la bosse que tu t'es faite au front. Ce n'est pas bien malin de se faire une bosse. Sais-tu ton notre père ?»
Tante répondit à mi-voix. « Et la mauvaise mémoire ?»
Grand-père sourit, ses sourcils roux se haussèrent gaiement.
« S'il en est ainsi, il faut le fouetter. »
Et s'adressant à moi de nouveau. « Ton père te donnait-il les verges ?» Ne comprenant pas de quoi il était question, je gardai le silence. Ce fut ma mère qui répliqua. « Non, Maxime ne l'a jamais battu, et il m'a interdit de le faire. »«
Pourquoi cela ?»«
Il jugeait que les coups n'apprennent rien. » »«
C'était un fief et imbécile, ce feu Maxime. Que Dieu me pardonne !»
proclama grand-père d'un ton irrité et tranchant. Ces paroles m'offensèrent. Il s'en aperçut.
« Pourquoi fais-tu la moue ?
Voyez-vous ça ? » Tout en lissant ses cheveux roux et argentés, il ajouta.
« Eh bien, moi, je fouetterai Saka samedi. »
« Qu'est-ce que cela signifie, fouetter ? »
Tout le monde se mit à rire. Et grand-père déclara « Attends jusqu'à samedi, et tu l'apprendras. » Je me retirai dans un coin où je me mis à réfléchir. Fouetter signifiait sans doute préparer les habits qu'on apportait à teindre. Battre et fouetter, c'était probablement la même chose. On donne des coups aux chevaux, aux chiens, aux chats. À Astrakhan, les sergents de ville battaient les persans. J'avais été témoin de quelques scènes de ce genre, mais je n'avais jamais vu frapper de petits enfants. Il arrivait bien cependant à mes oncles de distribuer aux leurs des chiquenaudes sur le front ou sur la nuque, mais mes cousins n'accordaient aucune importance à ces manifestations. Ils se contentaient de frotter l'endroit blessé, et souvent quand je leur demandais
« Il t'a fait mal ?»
ils répondaient avec insouciance «
« Mais non, absolument pas. »
Je connaissais l'horrible histoire du dé. Tous les soirs, entre le thé et le souper, les oncles et le contremaître recousaient les morceaux d'étoffe teinte et attachaient à chacun son étiquette de papier. Pour faire une farce à Grigori, qui était presque aveugle, l'oncle Michael avait commandé un jour à son neveu de chauffer à la flamme d'une chandelle le dé du contremaître. Prenant les pincettes, Saka, qui avait alors 9 ans, obéit, et sans être remarqué, déposa le dé rougi à portée de la main de Grigori. Cela fait, il s'en fut se cacher derrière le poêle. Grand-père arrivait juste à ce moment-là, et sans perdre une minute, se mettant au travail, il planta son index dans le dé incandescent. L'horrible cri qu'il poussa et le vacarme qui s'ensuivit me firent accourir en hâte à la cuisine. Et je me rappelle que grand-père bondissait drôlement, secouait la main, portait à l'oreille ses doigts brûlés et criait sur un ton aigu « Qu'avez-vous fait, sauvage ?» Penché sur la table, l'oncle Michael, du bout de l'ongle, poussait le dé sur lequel il soufflait pour le refroidir, tandis que le contremaître, lui, cousait sans s'émouvoir et que des ombres sautillaient sur son crâne dénudé. L'oncle Jacob accourut à son tour. Dissimulé derrière le poêle, il se mit à rire tout bas de la farce. Grand-mère râpait une pomme de terre crue.
« C'est ton fils, c'est Saka qui a fait le coup !»
déclara soudain l'oncle Michael.
« Menteur !»
répliqua Jacob en surgissant derrière le poêle. Dans un coin de la cuisine, mon cousin pleurait et protestait.
« Ce n'est pas vrai, papa. C'est lui qui m'a ordonné de chauffer le dé. »
Les deux oncles commencèrent à s'invectiver. Du coup, grand-père se calma. Il appliqua sur son doigt de la pomme de terre râpée et sortit sans mot dire, en m'emmenant avec lui. Tout le monde à la maison déclarait que le vrai coupable, c'était l'oncle Michael. il était naturel que je demandasse s'il serait battu ou fouetté.
« Il le mériterait !»
grommela grand-père en me regardant de côté. L'oncle Michael asséna sur la table un furieux coup de poing et apostropha ma mère.
« Varioucha, fais taire ton vaurien, sinon je lui arrache la caboche !»
Mère répliqua
« Essaie de le toucher !»
Et tout le monde se tut. Elle avait une façon à elle de prononcer certains mots très brefs qui désarçonnaient les adversaires et les refoulaient, diminués et vaincus. Je sentais nettement que tout le monde avait peur de ma mère. Grand-père lui-même lui parlait sur un ton plus doux et plus affable qu'au reste de la maisonnée, et cette distinction m'était agréable. Je m'en vantais avec fierté devant mes cousins.
« C'est ma mère qui est la plus forte !»
Ils ne se récriaient pas. Mais les événements du samedi modifièrent mon attitude envers ma mère. Avant que le samedi ne fût arrivé, je commis, moi aussi, une faute grave. J'étais fort intéressée par l'habileté avec laquelle les grandes personnes transformaient la couleur des étoffes. Elles prenaient un tissu jaune, par exemple, le plongeaient dans une eau noire, et l'étoffe devenait bleu foncé ou indigo. On rinçait une étoffe grise dans de l'eau roussâtre et elle devenait rouge bordeaux. C'était incompréhensible, mais si simple, semblait-il. C'est pourquoi je voulus teindre moi aussi quelque chose et je m'offris de ce projet à Saka, fils de l'oncle Jacob, garçon sérieux et affable envers tout le monde, toujours prêt à rendre service. Les grandes personnes l'aimaient pour sa docilité et son intelligence. Seul grand-père le regardait de travers et disait de lui « Quel sournois !» Fluet, les yeux bombés et saillants comme ceux d'une écrevisse, le teint et les cheveux noirs, Saka parlait d'une voix basse et précipitée, mangeant la moitié des mots, et ne proférait jamais une phrase sans jeter au préalable autour de lui un coup d'œil mystérieux. On eût dit qu'il se préparait à prendre la fuite, à s'aller cacher on ne savait où ni pourquoi. Ses prunelles couleur de noisette étaient immobiles, mais quand il s'animait, elles tremblaient avec le blanc de l'œil. Il me déplaisait. Je lui préférais de beaucoup Sacha, le fils de l'oncle Michael, qui était tranquille et paresseux. Avec ses yeux mélancoliques et son bon sourire, il ressemblait beaucoup à sa mère, la douce tante Nathalie. Il avait de vilaines dents qui lui sortaient de la bouche et poussaient sur deux rangées à la mâchoire supérieure et le préoccupaient sans cesse. Il avait toujours les doigts dans la bouche pour essayer d'ébranler ou d'arracher les incisives de la rangée intérieure et tous ceux qui le désiraient pouvaient les toucher. Il donnait cette autorisation avec un air soumis et résigné. Mais c'était tout ce qu'il avait d'intéressant. Dans cette maison grouillante de gens, il vivait solitaire, aimait à s'asseoir dans les recoins obscurs ou encore à s'accouder à la fenêtre lorsque tombait le soir. Il ne m'était point désagréable de rester assis à côté de lui à cette fenêtre dans le silence. Nous demeurions souvent l'un près de l'autre des heures entières à regarder les noirs choucas tourbillonner autour des coupoles dorées de l'église de l'Assomption. Les oiseaux s'élevaient très haut dans le ciel vespéral et rougeoyant. Ils retombaient, puis couvraient d'un voile sombre le firmament obscurci, et disparaissaient, en laissant l'espace inanimé et vide. Quand on regardait ce tableau, on n'avait pas envie de parler, et un agréable engourdissement emplissait la poitrine. Saka, lui, pouvait, comme une grande personne, discourir avec abondance sur n'importe quel sujet. Apprenant que je désirais m'initier à la profession de teinturier, il me conseilla pour mon coup d'essai de prendre dans l'armoire la grande nappe des jours de fête et de la teindre en bleu foncé. « C'est le blanc qui est le plus facile à teindre, je te le garantis, » affirma-t-il très gravement. Je m'emparai de la lourde nappe et me sauvai dans la cour. Mais je n'avais encore plongé qu'un coin du linge dans la cuve à indigo lorsque Tsiganok, sortant on ne sait d'où, fondit sur moi. Il m'arracha la pièce qu'il tordit aussitôt entre ses larges pattes, puis cria à mon cousin, qui du corridor surveillait mon travail. « Appelle vite ta grand-mère !» Et d'un air sinistre, hochant sa tête noire et bouclée, il me prévint. « Attends un peu, tu vas voir ce qui va te tomber dessus !» Grand-mère accourut et poussa des clameurs de détresse, puis elle versa des larmes et me couvrit d'amusantes injures. « Gringalet, oreille salée, que le diable te soulève et te jette par terre !» La première chose à laquelle elle songea ensuite fut de plaider ma cause auprès du jeune homme. « Ne dis rien au grand-père, je t'en prie, Tsiganok. Moi, je cacherai la nappe, et je m'arrangerai de telle sorte qu'on n'en sache rien. » L'ouvrier, essuyant sur son tablier multicolore ses mains mouillées, répondit d'un ton soucieux. « Pour ce qui est de moi, vous pouvez être tranquille, et je ne dirai rien. Mais veillez à ce que Saka n'aille pas rapporter. » « Je lui donnerai un copec, » dit grand-mère en m'entraînant vers la maison. Le samedi avant les vêpres, je ne sais quel membre de la famille m'amena à la cuisine où tout était obscur et silencieux. Je me rappelle les portes fermées des chambres et du corridor, le brouillard grisâtre d'une soirée d'automne derrière les fenêtres et le bruit sourd de la pluie. Sur un large banc, devant la gueule noire du fourneau, j'aperçus Tsiganok, qui n'avait pas son expression habituelle. Grand-père, debout dans un coin devant un cuveau, choisissait de longues verges qui trempaient dans l'eau. Il les mesurait, les assemblait et les faisait siffler en les secouant. Grand-mère prisait avec bruit dans la pénombre, tout en grommelant « Il est content, le bourreau !» Assis sur une chaise au milieu de la cuisine, Saka se frottait les yeux avec les poings, geignant d'une voix altérée comme un pauvre petit vieux. « Pardonnez-moi, au nom du Christ !» Épaule contre épaule, Sacha et sa sœur, les enfants de l'oncle Michael, étaient debout derrière la chaise et semblaient pétrifiés. « Je te pardonnerai quand je t'aurai fouetté !» répliqua grand-père, en faisant glisser une longue verge mouillée entre ses doigts repliés. « Allons, enlève ton pantalon !» Il parlait tranquillement. Ni le son de sa voix, ni le grincement de la chaise sous le gamin qui se débattait, ni les piétinements de grand-mère ne parvenaient à violer le silence solennel stagnant dans le demi-jour de la cuisine sous le plafond bas et enfumé. Saka se leva, déboutonna sa culotte qu'il fit descendre au-dessous du genou, et, la retenant d'une main, le dos voûté et trébuchant, il se dirigea vers le banc. Cette scène n'avait rien pour moi d'agréable, et je sentais mes jambes qui flageolaient. Mais je devins plus malheureux encore quand mon cousin se coucha docilement et à plat ventre sur le banc, auquel Tsiganok l'attacha avec un large essuie-main qu'il passa sous l'aisselle et sur le cou de Saka. Puis il se pencha vers le prisonnier, et de ses mains noires le maintint dans cette attitude en lui pressant la cuisse. « Approche-toi, Alexis !» appela grand-père. « Voyons, à qui est-ce que je parle? Viens regarder comment on fouette !»« Une !» Et levant un peu le bras, il fit claquer la baguette sur le corps nu. Saka se mit à crier. « Silence !» ordonna le bourreau. « Cela ne fait pas mal. Comme ceci, c'est plus douloureux. » Et il frappa de telle façon qu'une bande rouge apparut aussitôt, s'enflamma et se gonfla sur le dos de mon cousin, qui poussa un gémissement prolongé. « Ça ne te plaît pas ?» interrogea grand-père, levant et abaissant le bras en cadence. « Vraiment, tu n'aimes pas ça? C'est pour le dé !» Chaque fois qu'il levait le bras, ma poitrine tout entière se soulevait aussi. Quand il l'abaissait, je m'écroulais moi-même de frayeur.
Saka geignait d'une voix aiguë et angoissante.
« Je ne le ferai plus. Pourtant, je t'ai bien dit pour la nappe. Je t'ai tout dit. »
Dénoncer n'est pas se justifier. Le rapporteur doit être châtié le premier. Tiens, voilà pour la nappe.
Grand-mère se jeta sur moi et me prit dans ses bras en criant « Je ne te permettrai pas de toucher Alexis. Tu ne le prendras pas. Monstre !»
Elle se mit à lancer des coups de pied dans la porte et à appeler « Varioucha ! Varioucha !»
Grand-père se précipita sur elle, lui donna un croc en jambe, s'empara de moi et me porta sur le banc. Je me débattis violemment. Je tirai sa barbe rousse, je le mordis au doigt. Il hurlait, mais à chaque mouvement me serrait plus fort contre lui. Enfin, victorieux, il me lança sur le banc en me meurtrissant le visage. Je me rappellerai toujours son cri sauvage.
« Attache-le ! Je veux le tuer !»
Je me souviens aussi du visage blême de ma mère et de ses yeux immenses. Elle courait autour du banc et râlait
« Non, non, papa, rendez-le-moi »
Grand-père me fustigea jusqu'à ce que j'eusse perdu connaissance. Pendant plusieurs jours, je fus malade. On m'avait couché sur le ventre, dans un lit large et douillé, dressé dans une petite pièce qui n'avait qu'une seule fenêtre, et où une lampe rouge brûlait nuit et jour devant une étagère encombrée d'images saintes. Ces heures de maladie compteront parmi les grandes heures de mon existence. Je dus sans doute beaucoup grandir au cours de cette période, et il se fit en mon être intérieur un travail particulier. C'est à dater de ce moment que se manifesta en moi cette attention inquiète pour tous les êtres humains. Mon cœur, comme si on l'eût écorché, devint incroyablement sensible à toutes les humiliations et à toutes les souffrances personnelles ou étrangères. Avant tout, je fus très frappée par la querelle qui mit aux prises ma mère et ma grand-mère. Dans la pièce étroite, mon aïeul se jeta sur ma mère, la poussa dans un coin, près des images saintes, et, d'une voix sifflante, lui reprocha sa pusillanimité.
« Pourquoi ne le lui as-tu pas arraché ? J'ai eu peur. Une gaillarde comme toi, tu devrais avoir honte. Je suis vieille, moi, et je n'ai pas peur. Tu devrais avoir honte, te dis-je.
Laisse-moi tranquille, maman. J'ai le cœur brisé.
Non, tu ne l'aimes pas. Tu n'as pas pitié de l'orphelin. »
Mère répondit tout haut avec accablement. « Je suis seule, moi aussi, à tout jamais. » Après cette scène, elles pleurèrent longtemps toutes deux, assises sur un coffre dans un coin de la pièce. Et mère disait « Si Alexis n'était pas là, je serais déjà partie. Je ne peux pas vivre dans cet enfer. Non, je ne peux pas, maman. Je n'en ai pas la force. »
« Ma chérie, mon petit cœur !» chuchotait grand-mère.
Je gravais dans ma mémoire cette conclusion. Ma mère n'était pas la plus forte. Comme tout le monde, elle avait peur de grand-père. C'est moi qui l'empêchais de quitter une maison où elle ne pouvait pas vivre. Comme c'était triste. Bientôt, en effet, ma mère disparut. « Elle était allée en visite, me dit-on, mais je ne sus jamais où. » Soudain, comme s'il fût tombé du plafond, grand-père apparut. Il s'assit sur le lit et, d'une main froide comme de la glace, me tâta le front.
« Bonjour, monsieur.
Réponds-moi, ne boude pas.
Eh bien. »
J'aurais voulu lui donner un coup de pied. Mais chaque mouvement me causait une atroce souffrance. Grand-père me semblait plus roux encore qu'auparavant. Il secouait la tête avec anxiété. Ses yeux étincelaient et semblait chercher quelque chose sur le mur. Sortant de sa poche une chèvre en pain d'épices, deux trompettes de sucre, une pomme et une grappe de raisin sec, il posa gauchement le tout sur l'oreiller, près de mon nez.
« Tu vois ?
Je t'ai apporté des cadeaux. »
Et se penchant, il me baisa au front. Ensuite, il se mit à bavarder, tout en me caressant lentement de sa petite main rêche et teinte en jaune.
« J'ai été trop loin, mon ami, j'en conviens. Je me suis emportée. Tu m'avais mordu et gratigné, et cela m'a mis en colère.
Bah, ce n'est pas un grand malheur. Ce que tu as souffert en trop te sera compté une autre fois.
Sache-le, mon petit, quand un membre de ta famille te châtie, ce n'est pas une humiliation, mais une leçon. Défends-toi contre les étrangers. Mais entre nous, une correction, cela n'a pas d'importance. T'imagines-tu peut-être que je n'ai jamais été fouettée? On m'a fustigée si violemment que tu ne saurais pas t'en faire une idée, même dans le plus terrible des cauchemars. On m'a tant humiliée que si Dieu avait été témoin de la chose, il en aurait pleuré. Et qu'en est-il résulté? Moi, qui étais orphelin, fils d'une pauvre femme, je suis arrivé à une belle situation. Je suis devenu le président de ma corporation. Je commande à des gens. »
Allongeant à côté du mien son corps sec et bien proportionné, il se mit à me parler des jours de son enfance, et ses phrases, en paroles énergiques et pesantes, s'égrenaient avec une aisance habile. Ses yeux verts s'enflammèrent, sa toison rousse se hérissa gaiement, et sa voix aiguë devint plus grave, tandis qu'il me clamait dans la figure. « Tu es venu en bateau, c'est par la vapeur que tu es arrivé jusqu'ici. Mais moi, dans ma jeunesse, c'est avec mes seules forces que je remorquais les barques contre le courant du Volga. La barque voguait sur l'eau, moi j'étais sur la rive. J'allais pieds nus sur les cailloux coupants, parmi les éboulis, du lever du soleil jusqu'à la grande nuit. Le soleil t'incendie la nuque, ta tête bout comme du plomb fondu, et toi, courbé en trois morceaux, courbé à faire craquer tes os, tu marches, sans même voir la route, parce que tes yeux sont baignés de sueur. Ton âme est dans la tristesse et tes larmes coulent. Ah, Alexis, tu marches, et puis tu t'affaisses, le nez contre terre, et tu es bien content. Tu te dis que tu as dépensé toutes tes forces, que tu n'as plus qu'à te reposer ou à crever. Voilà comment on vivait naguère sous l'œil de Dieu, sous l'œil du miséricordieux Seigneur Jésus. Et c'est ainsi que j'ai descendu et remonté trois fois les rives du Volga, de Simbirsk à Rybinsk, de Saratov ici, d'Astrakhan à la foire de Makariev. Et cela fait des milliers de verstes. La quatrième année, j'ai accompli le voyage comme puiseur d'eau, prouvant au patron que je n'étais pas une bête. » Il parlait toujours. Sous mes yeux, le sec et petit vieillard grandissait comme un nuage et se muait en un homme d'une puissance extraordinaire. À lui tout seul, il remorquait une énorme barque grise contre le courant du fleuve. Parfois, il sautait à bas du lit. Gesticulant des bras, il me montrait alors comme les haleurs se harnachaient et de quelle façon on puisait l'eau. D'une voix de basse, il chantait ensuite je ne sais quelle chanson. Puis, avec une souplesse juvénile, il se juchait de nouveau sur le lit et, avec plus de vigueur et d'assurance encore qu'auparavant, reprenait son récit qui me pétrifiait d'étonnement. Oui, mais au halte, quand on se reposait les soirs d'été à Gigoulia ou ailleurs, au flanc des vertes montagnes, on allumait un grand feu et l'on faisait une bonne soupe. Un haleur venu des vallées entonnait une belle chanson, et les camarades en sourdine le soutenaient et l'accompagnaient. Quel beau moment! Il me semblait alors qu'un frisson courait sur ma peau, que le fleuve lui-même s'en allait plus vite, comme un étalon qui se serait dressé et aurait atteint les nuages. Et les soucis s'envolaient comme la poussière au vent. Parfois, le champ vous soulevait à un tel point qu'on en oubliait la soupe et qu'elle débordait hors de la marmite.
On donnait alors des coups de balai au cuisinier. Le chant est le chant, mais il ne faut pas pour cela négliger son travail. À plusieurs reprises, on vint entr'ouvrir la porte et appeler grand-père, mais je le suppliais de rester. En souriant, il renvoyait les importuns. « Attendez un instant !» Jusqu'à la tombée de la nuit, il me raconta des histoires. Lorsque, après une dernière caresse affectueuse, il s'en alla, je savais que grand-père n'était ni méchant ni terrible, mais j'avais beaucoup de chagrin. J'aurais voulu perdre tout souvenir de ce qui s'était passé, et pourtant, il ne m'était pas possible d'oublier que c'était lui qui m'avait si cruellement fouetté. La visite du grand-père ouvrit toute grande la porte de ma chambre. Du matin au soir, quelqu'un se tint en permanence à mon chevet pour essayer de me distraire. Et je me rappelle que ce ne fut pas toujours gai ni amusant. Grand-mère venait me voir plus souvent que les autres. Nous dormions même tous deux dans le même lit. Mais l'impression la plus vive que j'ai conservée de ces jours-là, ce fut Tsiganok qui me la fit ressentir. Large d'épaules, massif, la tête très grosse et rebondie, il vint au cours de la soirée me rendre visite. Vêtu d'une blouse de soie dorée, de pantalons en peluche et chaussé de bottes grinçantes et toutes plissées. Ses cheveux brillaient. Ses yeux joyeux et luisants louchaient sous d'épais sourcils. Dans l'ombre d'une petite moustache noire, ses dents étincelaient, et sa blouse qui flamboyait reflétait délicatement la flamme rouge de la sempiternelle petite lampe. « Regarde donc !» s'écria-t-il. Et, relevant sa manche jusqu'au coude, il me montra son bras nu, où se voyaient des taches rouges. « Crois-tu que cela a enflé ? C'était bien plus vilain encore, mais ça s'est guéri peu à peu. Tu comprends, quand le grand-père s'est mis en colère et que j'ai vu qu'il allait te fouetter à mort, j'ai présenté le bras au cou. J'espérais que la baguette se casserait, et durant le temps qu'il en aurait cherché une autre, la grand-mère ou ta mère t'aurait enlevé de la chambre. Mais la baguette ne s'est pas cassée, elle était souple, elle avait été trempée dans l'eau. Et pourtant, tu en as moins reçu qu'il ne pensait. Tu vois la marque de ceci. C'est toujours autant de coups que tu n'as pas eu. Je suis roublard, moi, mon ami. » Il se mit à rire d'un rire caressant, comme soyeux. Puis, regardant encore son bras enflé, il déclara avec un bon sourire « Tu m'as tellement fait pitié que j'en ai perdu le souffle. Ah, malheur ! Et lui, il continuait à fouetter. » S'ébrouant comme un cheval, il hocha la tête et se mit à parler de son ouvrage. Je le sentais tout proche de mon cœur. Il était simple comme un enfant. Je lui confiai que je l'aimais beaucoup. Avec une simplicité inoubliable, il me répondit « Mais moi aussi je t'aime. C'est parce que je t'aime que j'ai accepté la souffrance. L'aurais-je fait pour quelqu'un d'autre ? Non. » Je m'en fiche des autres. » Ensuite, et tout en jetant de temps en temps un regard sur la porte, il me donna des conseils. « Une autre fois, quand tu seras fouetté, ne te contracte pas, comprends-tu ? Ne serre pas la peau, tu saisis ? Cela fait une fois plus mal quand on se raidit. Il faut que le corps reste mou. Relâchez les membres et les laissez souples. Et puis... ne fais pas le fier si cela t'arrive encore, et crie tant que tu pourras. Rappelle-toi ces conseils, cela vaut mieux. » Je demandai, anxieux, « Serais-je encore fouetté ?»« Mais bien sûr, » répliqua tranquillement Tsiganok. « Certainement tu seras encore et souvent fouetté. » « Pourquoi donc ?»« Oh, le grand-père trouvera bien des prétextes. » Et d'une voix soucieuse, il me donna encore une leçon. Quand il fouette, tout simplement, quand il tape à coups continus, il faut rester tranquille et souple. Mais quand les choses traînent en longueur, quand il fouette une fois et ramène la baguette à lui pour enlever la peau, il faut se tortiller vers lui et suivre la verge, pour ainsi dire. Comprends-tu? C'est moins pénible. Son œil noir et bigle cligna de mon côté et il ajouta. En ce qui concerne les coups, je suis mieux renseigné que le commissaire de police lui-même. Avec ma peau, mon petit, on pourrait se faire des gants. Je regardais toujours son joyeux visage, et invinciblement je pensais aux légendes que grand-mère me racontait sur Ivan, le fils du roi, sur Ivan, l'imbécile.